Les conférences du Collège de France.
Bienvenue ce soir pour cette première leçon du professeur René Bloch. D'abord, je suis très content que vous soyez aussi nombreux, malgré la pluie et le temps pas très agréable. Mais vous avez trouvé votre chemin ici au Collège de France. Donc, je suis très heureux de vous présenter très brièvement, parce que je ne vais pas trop prendre de son temps, le professeur René Bloch, qui va donner un cours de 4 leçons sur les débuts de la philosophie juive dans l'Antiquité. Et c'est tout à fait la personne qu'il faut pour donner un cours intitulé ainsi. René Bloch, moi je l'ai connu depuis 2004, je crois, ça ne nous rajeunit pas, où nous avions un projet du Fonds national suisse autour de la figure de Moïse. Dans l'Antiquité, Moïse entrait Athènes et Jérusalem, et là j'ai connu pour la première fois René, qui a collaboré à ce projet. Et comme vous allez le voir, c'est un grand spécialiste justement du judaïsme à l'époque hellénistique, notamment au Philon d'Alexandrie. Donc René Bloch connaît très bien le français puisqu'il a fait ses études ici à la Sorbonne, ça ne rajeunit pas non plus, 1994, et puis à Bâle, et où il a donc étudié la philologie latine, le grec et aussi la Bible hébraïque, l'Ancien Testament. Et il s'est habilité en 2008 à l'université de Bâle. Et depuis 2015, c'est ça, il est professeur ordinaire à l'université de Berne, dans l'Institut de judaïsme, où son point de recherche, le judaïsme antique et du Moyen-Âge. Il a été dans plusieurs universités, à Harvard, aussi à la Sorbonne. Et donc, nous sommes très heureux qu'il a accepté de venir aussi ici au Collège de France pour nous entretenir sur cette question très importante. René a écrit beaucoup de choses, donc je voulais juste vous donner les livres « Ancient Jewish Diaspora, Essays en hellénisme », donc sur la diaspora juif ancien. Alors, après, je ne sais pas comment traduire « Jüdische Drehbühnen ». Comment tu traduis ça? Difficile à traduire. Il vous expliquera ce que c'est. Puis Moïse et le mythe, ça c'est plus facile. Moses und der Mythos. Et Antike Vorstellung vom Judentum, des représentations anciennes de l'Antiquité de ce que c'est le judaïsme. Mais au lieu de parler, je pense mieux de laisser parler René. Et si on a le temps, on peut prendre 2-3 questions à la fin. On verra comment les choses se passent. Voilà.
Merci beaucoup, cher Thomas, pour cette très gentille introduction et pour m'avoir invité au Collège de France à donner une série de 4 conférences sur les débuts de la philosophie juive dans l'Antiquité. Je me sens honoré et je me réjouis de pouvoir m'adresser à vous. Soyez les bienvenus à ma première conférence qui portera justement sur la Torah et le cosmopolitisme. Sujet vaste. Premier chapitre, le filon innovateur de Harry Austin Wolfson. En 1947, Harry Austin Wolfson, alors professeur de littérature hébraïque et de philosophie à l'université de Harvard, publie une grande étude sur le philosophe et théologien judéo-hellénistique Philon d'Alexandrie. Cet impressionnant ouvrage, articulant 2 volumes d'un millier de pages, constitue jusqu'à aujourd'hui la plus grande monographie sur Philon d'Alexandrie. Le titre principal, d'allure modeste, Philo, est enrichi par son sous-titre révélateur qui en éclaire la portée. Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam, soit les fondements de la philosophie religieuse dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. La thèse de Wolfson dans cet ouvrage est aussi simple qu'ambitieuse. Philon, qui a vécu approximativement de 20 avant Jésus-Christ à 50 après Jésus-Christ, n'était pas seulement un exégète et un philosophe lu et partagé avec enthousiasme par les premiers chrétiens, il était aussi, d'après Wolfson, l'inaugurateur d'une période fondamentalement nouvelle dans l'histoire de la philosophie. Pour Wolfson, Philon représente le paradigme de ce qui allait devenir le philosophe synthétique médiéval. Influencé par les philosophes païens, mais essentiellement différent d'eux, Philon incarne pour Wolfson un nouveau type de philosophie. En effet, pour le professeur d'Harvard, la philosophie synthétique médiévale, inventée et introduite par Philon, combine deux alternatives qui restaient auparavant séparées, l'écriture et la philosophie. Les adeptes de cette nouvelle philosophie croient, et je cite Wolfson en français, en une source infaillible de vérité qui est la révélation, et cette révélation est incarnée par l'écriture, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament ou du Coran. Cette nouvelle combinaison de l'écriture et de la philosophie n'est bien entendu pas égalitaire. La philosophie reste la servante du texte sacré, « the servant of scripture ». Cependant, il n'en demeure pas moins qu'une combinaison nouvelle fait son apparition. Wolfson n'hésite pas de parler dans ce cas d'une révolution philonienne, « a philonic revolution ». Avec Philon, la philosophie et la théologie ne sont plus deux entités séparées, mais forment une entité. Pour Harry Wolfson, il s'agit d'une révolution qui aurait duré tout au long du Moyen-Âge et n'aurait pris fin qu'au XVIIe siècle avec la révolte d'un autre philosophe juif, Benedictus de Spinoza, philosophe néerlandais que Wolfson avait déjà abordé dans une monographe en 1934, publiée en français en 1999, sous le titre « La philosophie de Spinoza ». En fait, le grand ouvrage de Wolfson sur Philon d'Alexandrie fait partie d'un projet plus vaste, celui d'un portrait de longue durée sur la philosophie juive, et même de la philosophie en général, en partant de la philosophie grecque classique pour aboutir à Spinoza. Pour Wolfson, Spinoza se situe donc à l'autre extrémité du spectre. En retirant la Bible de la philosophie, avec son déni de la révélation, Spinoza a démoli, je cite Wolfson pour ainsi dire, la philosophie que Philon d'Alexandrie avait construite. Wolfson a construit un argument puissant contre Hegel, d'ailleurs, qui subordonnait les philosophes juifs et musulmans aux philosophes chrétiens, afin de prouver que Philon n'était en aucun cas un juif isolé, sans conséquence pour l'histoire ultérieure de la philosophie. Selon Wolfson, Philon était novateur, cohérent et surtout influent. Wolfson décrit son projet comme suit. Philon sortira de notre étude comme un philosophe à part entière, a philosopher in the grand manner, et non comme un simple amateur de philosophie. Il avait en effet une puissance intellectuelle qui lui permettait de rejeter les théories d'autres philosophes et de s'engager dans une voie nouvelle et inconnue jusqu'alors. Il faut lui reconnaître le mérite de l'originalité, credit for originality, dans tous les problèmes qu'il a traités, car dans cette série particulière de problèmes, il est à l'origine de tous les concepts fondamentaux qui ont continué à être discutés par la suite tout au long de l'histoire de la philosophie. Wolfson a voulu ramener Philon à la vie et a lancé une gigantesque opération de résurrection. Il a affirmé publiquement la grande importance d'un philosophe juif qui, jusque-là, avait souvent été négligé. Afin d'éclairer l'entreprise monumentale de ce professeur de littérature hébraïque et de philosophie, une esquisse biographique s'impose. Harry Austin Wolfson est né en 1887 à Austin, en Lituanie, et décédé en 1974 à Cambridge, dans le Massachusetts. Jeune homme, il étudie le Talmud à la célèbre yeshiva de Slobodka, en Lituanie. En 1903, il émigre avec sa famille aux États-Unis. Il s'inscrit à l'université de Harvard, où il obtient son doctorat en 1915, avec une thèse sur le philosophe juif médiéval Chastai Kreskas. Wolfson commence à enseigner à Harvard, où il devient en 1925 le premier professeur de littérature hébraïque et de philosophie juive. Il est en fait le premier à occuper un poste de professeur entièrement consacré aux études juives aux États-Unis. Et Wolfson restera à Harvard toute sa vie. En fait, il restera dans la bibliothèque de Harvard toute sa vie. Né dans une famille d'hébraïsants et de sionistes, il est actif pendant ses études à la yeshiva de Slobodka, dans le mouvement sioniste local, et devient rédacteur en chef d'une revue hébraïque, Hazman. En fait, Wolfson a conservé tout au long de sa vie un profond attachement à la langue hébraïque. En 1959, dans une lettre adressée à David Ben-Gurion, Wolfson qualifie la langue hébraïque de symbole de la singularité extérieure d'Israël et de sa vitalité intérieure. Fait remarquable, Wolfson ne s'est jamais rendu en Israël, un peu comme Moïse. On va parler de Moïse bientôt. En 1926, il a même refusé une offre de poste permanent à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il y a quelques années, pendant un séjour scientifique à l'Université de Harvard, j'ai eu l'occasion de consulter dans les archives de l'université les lettres qui avaient été envoyées à Harry Wolfson lors de la publication de son grand ouvrage sur Philon en 1947. Il s'agissait d'une centaine de lettres dont j'ai récemment publié certaines dans la Harvard Theological Review. Les grands spécialistes de Philon et de l'ancien judaïsme d'alors avaient écrit à Wolfson après avoir reçu une copie gratuite du livre que Wolfson avait d'ailleurs propagé d'une manière presque prosélyte. On retrouve parmi ces spécialistes Irving Goodenough de la Yale University qui interprétait Philon comme un mystique et vers qui nous reviendrons le 5 février dans ma conférence sur le mysticisme et les rêves, Isaac Heinemann de Jérusalem, pour qui Philon était un érudit juif hellénistique pratiquement indépendant du développement rabbinique, Gershom Scholem, le grand spécialiste de la Kabbale, lui aussi de Jérusalem, Elias Pickerman de la Columbia University, historien plutôt que philosophe, qui ne cache pas son désintérêt principal pour Philon, et beaucoup d'autres. Mis à part ces spécialistes de Philon et de l'ancien judaïsme, il se trouve de nombreuses lettres et notes de la part de lecteurs juifs, surtout des États-Unis, louant Wolfson pour son interprétation nouvelle de Philon. Léo Schwartz, qui devrait un jour écrire une biographie, peut-être plutôt une hagiographie, de Wolfson et qui était son étudiant, lui écrivit « Comme dans vos précédents volumes, vous avez donné à la philosophie juive une demeure et un nom. » Des rabbins de communautés réformées en particulier approuvèrent avec enthousiasme le retour de Philon au judaïsme. « Vous avez fait de Philon un vrai juif », écrivit le rabbin Félix Lévy, rabbin réformé de Chicago. Ralph Marcus, ami proche de Wolfson et lui-même grand spécialiste de Flavius Joseph, parla d'une réhabilitation de Philon. Les réactions de certains chercheurs qui écrivirent à Wolfson en hébreu furent particulièrement enthousiastes. Shalom Spiegel, professeur de littérature hébraïque médiévale au Jewish Theological Seminary à New York et auteur du livre Hebrew Reborn, transmit à Wolfson qu'il avait reçu les volumes le soir de Yom Kippour et n'avait pas pu s'arrêter de les lire. Wolfson, écrivit Spiegel, est le rédempteur, le goël de Philon, qu'il a rendu à son peuple, who returned him to his people, et à l'héritage de ses ancêtres, et l'a également ramené à l'importance qu'il mérite compte tenu de son influence dans l'histoire de la philosophie. Chaim Czernowitz, un sioniste fervent, qui comme Wolfson avait d'abord été formé dans une yeshiva lituanienne, avant de devenir professeur de Talmud et de littérature rabbinique au Jewish Institute of Religion à New York, utilisa un langage très similaire. Czernowitz dit être reconnaissant à Wolfson parce qu'il avait, je le cite, restaurer l'ancienne gloire juive que les Goyim avaient enlevée à Philon et à son nom. Czernowitz partageait le point de vue de Wolfson sur les parallèles rabbiniques chez Philon. Il devait y avoir un échange entre Alexandrie et le mouvement rabbinique. Si Philon avait écrit son œuvre en hébreu, poursuivait Czernowitz, il y aurait maintenant un Midrash Alexandria, un rabbi Yedidia, le nom hébreu de Philon, depuis Azaria de Rossi au XVIe siècle, ou peut-être même un troisième Talmud, un Talmud alexandrien, en plus du Bavli et du Yerushalmi. Cependant, Philon n'a pas mérité cela, continua Czernowitz, parce que Philon avait péché en écrivant pas ses traités en hébreu. Et Wolfson aussi aurait dû écrire son livre en hébreu et pas en anglais, ajouta Czernowitz. Pour ces érudits juifs, plus que la thèse principale de Wolfson, Philon comme prédécesseur de la pensée médiévale, c'est le fait que Wolfson ait restauré le judaïsme de Philon en tant que philosophe qui est important. Wolfson a ramené Philon à la maison. En fait, si Wolfson voulait présenter Philon comme un révolutionnaire, pour beaucoup de ses lecteurs juifs, c'est tout d'abord lui, Wolfson, qui fut révolutionnaire. Selon Wolfson, le judaïsme alexandrin et le judaïsme rabbinique n'étaient dans aucun cas deux mondes séparés. Au contraire, la communauté juive alexandrine approuvait l'élément dominant venu de la Judée et qui a finalement donné naissance au pharisaïsme. Wolfson se distance ainsi de chercheurs tels qu'Isaac Heinemann, selon lesquels Philon ne connaissait pas l'hébreu, en particulier à la lumière des nombreuses étymologies hébraïques dont l'exégèse de Philon. Wolfson estime que la charge de la preuve incombe à ceux qui nieraient qu'il Philon possédait une connaissance de l'hébreu. Pour des lecteurs tels que Chaim Tchernovitz et Shalom Spiegel, tous deux promoteurs de la langue hébraïque, le portrait de Philon dressé par Wolfson en profonde interaction avec la pensée rabbinique en Palestine fut très attrayant, un véritable régal pour les grandes fêtes juives de 1947, lorsque le livre sortit. Je reviendrai à cette question, Philon hébraïsant ou pas, une des grandes questions des études philoniennes, dans ma quatrième conférence le 12 février, quand nous parlerons de la diaspora juive. 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, le grand ouvrage de Wolfson pouvait être lu comme la preuve d'une présence juive forte et vivante dans l'histoire intellectuelle. Ce qui semble ressortir clairement des lettres conservées dans les archives de Wolfson, c'est que dans les années de deuil et d'incertitude de l'après-guerre, Philon offrit une orientation réconfortante et une source de fierté pour les lecteurs juifs. Henry Hurwitz, rédacteur en chef du Menorah Journal, écrivit à Wolfson « Il est passionnant de constater que deux Juifs se sont partagés la substance et l'histoire de la philosophie européenne post-grecque, Philon et Spinoza. Pourtant, certains disent que les Juifs sont des étrangers en Europe. » Dans mes 4 conférences sur les débuts de la philosophie juive dans l'Antiquité, je reviendrai à plusieurs reprises sur l'ouvrage de Wolfson. Cependant, je ne cacherai pas mes réserves vis-à-vis de sa méthodologie. Tout au long de son étude, Wolfson montre une forte tendance à résoudre toutes les incohérences de Philon, une approche vouée à l'échec, à la lumière des discussions très diverses de Philon sur une variété de thèmes. Cette lacune du travail de Wolfson est, dans une large mesure, le résultat d'une approche méthodologique que Wolfson a appelée The Hypothetical Deductive Method of Text Study, la méthode hypothético-déductive d'étude des textes. À l'aide de cette méthode, que Wolfson qualifie de talmudique et qui était déjà au cœur de ses livres sur Crescas et Spinoza, il cherche à découvrir l'enchaînement logique des raisonnements sans contradiction qui a conduit à la philosophie de Philon. Voilà un passage typique de l'œuvre de Wolfson. Il parle ici du concept de logos chez Philon. Cela semble être en contradiction avec certaines de ses autres déclarations que nous avons citées plus haut. Et à moins de supposer que Philon ne connaissait pas sa propre opinion ou qu'il a changé d'avis, il faut trouver un moyen de réconcilier cette déclaration avec ses autres déclarations. A way must be found to reconcile this statement with his other statements. Vous voyez le besoin de Wolfson d'exclure toute contradiction dans l'œuvre de Philon. Par ailleurs, son interprétation grandiose de Philon comme le seul fondateur spirituel de toute la philosophie médiévale doit être qualifiée d'exagérée. Wolfson a réagi de manière excessive à une image largement répandue de Philon à l'époque et qui d'ailleurs, il me semble, n'a pas tout à fait disparu aujourd'hui. L'image d'un philosophe juif qui se contente de rassembler ce qui existait déjà, un éclectique médiocre. Le Philon de Wolfson est tout le contraire, innovant, vivant et influent. Et en principe, je partage cette opinion. Philon d'Alexandrie était innovant, vivant et influent. Mais il fut aussi complexe, aussi long et contradictoire. Nous rencontrerons certaines contradictions philoniennes à plusieurs reprises dans mes conférences, par exemple la semaine prochaine, dans le contexte de l'usage du mythe grec, mythe juif, chez Philon. Nier ces contradictions s'avère problématique, car nier le Philon contradictoire, c'est le simplifier. Dans mes conférences, je ne m'intéresserai que peu à l'héritage philonien. Je choisirai plutôt une approche rétrospective et généalogique. Je mettrai en question la thèse simpliste de Wolfson, partagée plus ou moins implicitement par beaucoup de philoniens, d'un filon qui aurait ajouté la philosophie à la théologie juive, d'un filon qui deviendrait philosophe seulement au moment où il découvre les philosophes grecs. Certes, l'influence de la philosophie grecque, de la philosophie platonicienne surtout, mais pas seulement, sur Philon ne peut pas être mise en doute. Mais l'équation, la loi juive plus la philosophie grecque égale Philon d'Alexandrie, équation quasi mathématique répandue dans la recherche, est trop simpliste. Elle est liée à l'idée périmée d'un judaïsme et d'un hellénisme comme entité séparée qui, un jour, se seraient rencontrés. Bonjour, je suis la philosophia, je suis le judaïsme, enchanté, il faudrait boire un café un jour. Nous verrons que les choses ne se sont pas faites ainsi, et cela d'autant plus que la philosophie juive hellénistique ne commence point avec Philon. Nous y reviendrons ultérieurement. Moïse, philosophe. Philon ne parle que très rarement de lui-même. Il a en revanche beaucoup de choses à dire sur Moïse. Et il me semble que c'est à travers Moïse que Philon se fait connaître. Comme nous l'avons évoqué, et en dépit de ce que Harry Wolfson déclare, on le découvre alors complexe et contradictoire. Philon partage sa complexité avec Moïse, un Moïse qu'il crée. Le Moïse de Philon est un Moïse hésitant, plus encore que celui de la Torah, bien présenté d'ailleurs par Jean-Christophe Attias dans son Moïse fragile. Le Moïse philonien pèse les arguments. On le voit par exemple dans le contexte de la date du rite pascal à l'intention de ceux qui ne pouvaient pas participer à la fête officielle. Les détails importent peu. Il s'agit ici avant tout de noter que Moïse, selon Philon, ne savait quelle décision prendre et oscillait comme sur un plateau de balance. Os prepi plastingos anti repon. Le Moïse de Philon oscille, il pèse le pour et le contre, toujours en cherchant la vérité. Voilà ce que le jeune Moïse fait déjà pendant ses études à l'école, en écoutant des professeurs différents venant de l'Égypte, de la Grèce, mais aussi du Proche-Orient. Étudiant avec précision, katamaton chez les uns et les autres, les points sur lesquels ils accordent, ceux aussi sur lesquels ils divergent, négligeant la polémique et dépassant leur querelle, Moïse recherchait la vérité à l'état, etc., car sa pensée ne pouvait admettre aucune forme de mensonge. Le Moïse de Philon recherche la vérité, il ne la connaît pas. Moïse y apparaît philosophe, un philosophe sceptique, même si pas nécessairement un représentant de l'école sceptique, avec son dogmatisme négatif, comme l'a démontré à juste titre Carlos Levy, un philosophe enfin surtout dialectique. Dans tous les cas, ce Moïse semble ouvert aux opinions divergentes. Il ne s'agit en aucun cas de Moïse wolfsonien qui serait vide de doutes, vide de contradictions. L'image de Moïse en tant que philosophe n'est d'ailleurs pas une invention de Philon. Elle remonte à des auteurs juifs hellénistiques antérieurs, tels que Pseudo-Eupolème, Artapan et Aristobule. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, dans la littérature juive hellénistique, circule l'opinion que Moïse est le premier sage, voire l'inventeur de la philosophie tout court. Artapan, cet auteur judo-hellénistique fascinant et énigmatique, dans un catalogue des inventions mosaïques, qui d'ailleurs rappelle une liste d'inventions liées à Prométhée, conclut la liste des innovations de Moïse avec celle de la philosophie, vous voyez le passage. Une fois adulte, Moïse transmit aux hommes beaucoup de connaissances utiles. Il inventa en effet des bateaux, des machines à placer les pierres, les armes égyptiennes, les instruments hydrauliques et guerriers et la philosophie. Probablement à la même époque, au IIe siècle avant Jésus-Christ, Aristobule, dont nous ne possédons que quelques fragments, établit un lien entre les philosophes grecs Pythagore, Socrate et Platon d'un côté et Moïse de l'autre. À l'époque de Philon, au premier siècle après, le lien entre Moïse et la philosophie était donc déjà une sorte de cliché. Néanmoins, chez Philon, le philosophe Moïse est une figure plus complexe que dans ses textes antérieurs. Selon Philon, Moïse n'a pas inventé la philosophie, contrairement à ce qu'affirme Artapon. Il est vrai que Philon lui aussi souligne parfois l'ancienneté et l'originalité de la philosophie juive. Il nous dit par exemple que l'affirmation philosophique selon laquelle la vertu est égale au bonheur n'est pas une invention de la philosophie païenne, mais de Moïse. De la même façon, les philosophes grecs Héraclite et Zénon n'ont pas créé d'idées nouvelles, mais d'après Philon, ont simplement utilisé, vous voyez les passages ici, les anciennes découvertes de Moïse ou la source de la loi juive. Pourtant, Philon ne revendique nulle part l'originalité absolue de la philosophie juive. Au contraire, il est tout à fait conscient de ce qu'il doit à ses prédécesseurs philosophiques, en particulier à Platon. Philon poursuit la même dialectique que son Moïse. On peut aussi bien dire que Philon crée un Moïse qui, dans sa recherche de la vraie voie, dans sa recherche de la vérité, suit la même dialectique que lui. L'Alexandrin aborde les différentes opinions des écoles philosophiques de son temps, mais aussi la philosophie qui est déjà inhérente à la tradition juive. Le judaïsme n'est pas seulement une religion, et Philon n'est pas simplement un homme religieux. Et il va sans dire que la philosophie grecque n'est pas exempte de religion. Philon parle donc à travers son Moïse. Il profite du vieux cliché de Moïse comme philosophe et projette son propre programme philosophique sur ce personnage. Sa biographie sur Moïse, un traité de vita Moses, est un texte clé pour comprendre ce projet. Je cite ici les paragraphes 211 et 212 du deuxième livre où il parle du sabbat comme un jour idéal pour la philosophie. Pour cette raison, Moïse, grand en toutes choses, estima que ceux qui étaient inscrits sur la liste de citoyens et qui suivaient les lois de la nature devaient célébrer une fête solennelle, passer le temps dans les réjouissances, s'abstenir des travaux et des activités tournées vers le profit, ainsi que des affaires destinées à nous faire vivre, qu'ils devaient s'accorder un temps de relâche et se libérer de tout souci ennuyeux et fatigant. Mais il ne s'agissait pas de se délasser comme certains par des éclats de rire, des amusements puérils, des exhibitions de mimes ou de danseurs devant lesquels les gens fous de spectacle. Ici, on rencontre d'ailleurs pour la première fois dans la littérature grecque le verbe théatromaneo, théatromanie, hein, être fou du théâtre, dégénèrent et meurent lentement, transformant en esclaves leur âme, reine naturelle, par les sens les plus dominateurs, la vue, et Louis, le délassement ne devant venir que de la philosophie, non pas celle que pratiquent les chasmeaux et les sophistes qui vendent comme on fait pour quelques autres denrées sur l'agora, le principe et le raisonnement, gens qui ne rougissent pas aux terres, au soleil, d'employer continuellement la philosophie contre la philosophie. Non, il s'agit de la vraie philosophie tissée de trois éléments, délibération, raisonnement, action. Unis harmonieusement en une seule forme pour l'acquisition de la jouissance et la jouissance de la félicité. L'enseignement de Moïse, nous dit Philon, représente donc la vraie philosophie, the anti-philosophane. C'est une philosophie qui se compose des trois éléments intention ou délibération, la traduction d'Arnaldé pour bouloïma, raisonnement, logos, et action, praxis, éléments qui conduisent à une vie heureuse, eudaimonia, le but de la philosophie philonienne, mais quasiment de toute la philosophie grecque. Pour cette forme de philosophie, écrit Philon, le sabbat est particulièrement adapté. Le sabbat est ici une idée philosophique. C'est dans ce sens que Moïse enseignait la philosophie le jour du sabbat. Car c'était la coutume tous les jours suivant les occasions et spécialement le septième jour, comme je l'ai indiqué plus haut, de s'adonner à la philosophie, le chef du peuple expliquant et enseignant ce qu'il faut faire et dire, les autres faisant des progrès en vertu et se perfectionnant dans leur caractère et dans la vie. Philon reconnaît la continuité de cette tradition chez les Juifs de son temps. C'est de là que vient l'habitude encore aujourd'hui pour les Juifs de s'adonner à la philosophie de leur père, ten patrion philosophian, le septième jour, est de consacrer ce moment à la connaissance et à la contemplation des choses de la nature. À la lecture de cet extrait, il convient de se demander ce qu'est la philosophie de leur père, la patrios philosophia. Pour Philon, c'est tout d'abord la Torah, ce qu'il appelle honomos, la loi juive. Approche surprenante à nos yeux, peut-être, la Torah chez Philon et la philosophie juive. Pour Philon, la loi n'a pas seulement un aspect juridique, et rappelons en effet que pour les philosophes grecs, les lois pouvaient tout à fait être un sujet philosophique. Pensons évidemment aux lois de Platon, mais aussi au traité des lois de Théophraste, sans même parler de toute la philosophie politique qui fait partie de l'éthique, ou encore des lois de la nature ou de l'opposition par nomos et par physis. Pour Philon, la Torah est une école de pensée qui permet de discuter de questions philosophiques fondamentales. Nous voyons une fois de plus que la séparation de la religion et de la philosophie n'aide pas à comprendre Philon. Dans son exégèse d'un passage célèbre du Deutéronome, Philon renvoie aux mêmes trois termes que nous venons de rencontrer dans sa vie de Moïse, à savoir intention, raisonnement et action. Dans Deutéronome 30:12, il est dit « il », c'est-à-dire le commandement, en hébreu « ha-mitzvah », les rabbins diront plus tard « la Torah », « il » donc n'est pas dans le ciel, en eau, « lo ba-shamayim hi », pour que tu dises « qui montera pour nous jusqu'au ciel ?» Et quand nous l'aurons entendu, nous le mettrons en pratique. Et le texte continue, « près de toi est la parole, tout près, dans ta bouche et dans ton cœur, et entre tes mains, pour que tu la mettes en pratique. » Philon cite ce passage du Deutéronome dans « De mutatione nominum » et l'interprète ainsi. « Toute œuvre, dit-il, est dans ta bouche, dans ton cœur et dans tes mains. » Ce qui veut dire symboliquement dans tes paroles, dans tes dessins, dans tes œuvres, en logois, en boulais, en ergois. Car ce sont les bons dessins, les bonnes paroles, les bonnes actions qui constituent le bonheur de l'homme, comme leur contraire font son malheur. En effet, c'est dans les mêmes domaines que se trouve l'action conforme au devoir et l'action fautive, dans le cœur, dans la bouche, dans la main. Certains prennent des résolutions très avisées, ils tiennent d'excellents propos et ils font ce qu'il y a à faire. Des trois, prendre les résolutions qu'il ne faut pas prendre est le mal le plus léger, le plus grave, est de mettre la main aux mauvaises actions entre les deux, sans les paroles qu'on ne doit pas dire. Le point de départ de cette discussion dans le De mutatione nominum, le traité de Philon, est une exégèse sur la loi décrite dans le Lévitique 5, réglant les offrandes. Rappelons ce contexte sacrificiel parce que nous le rencontrerons de nouveau dans un texte païen parlant de juifs comme un peuple de philosophes. D'après ce passage du Lévitique, il existe trois possibilités pour se repentir. Par l'offrande de bétail, d'oiseaux ou de blanche farine. Sur quoi Philon s'interroge? Mais enfin, pourquoi cette purification par trois procédés? Voilà qui mérite d'être recherché. Peut-être que les fautes et les devoirs se trouvent répartis en trois domaines, la pensée, les paroles, les actions. C'est pour cela que Moïse, donnant un enseignement même dans ses exhortations, dit que l'acquisition du bien n'est pas impossible et n'est pas non plus une capture difficile. Voilà donc encore une fois cette approche tripartite que nous avons rencontrée dans la vie de Moïse comme explication d'une philosophie de nos pères, patrios philosophia. Le vocabulaire est pratiquement identique, pensée, parole, action. Philon revient à cette anthropologie philosophique, pour reprendre un terme de Michael Cover, dans son commentaire tout récent sur le traité de De mutatione nominum, pas moins de 7 fois dans son œuvre, dans son commentaire allégorique, ainsi que dans les traités appelés philosophiques et dans la soi-disant Expositio Moses. Le passage du Deutéronome 30:14, « Près de toi est la parole, tout près, dans ta bouche et dans ton cœur et entre tes mains, pour que tu la mettes en pratique », est évidemment important pour le philosophe judéo-hellénistique. C'est un passage aussi cher aux rabbins. Pour les rabbins, le fait que la Torah n'est pas, ou plutôt n'est plus, au ciel, « lo ba-shamayim hi », est une invitation à discuter ouvertement de la loi juive. Au fond, pour Philon, c'est pareil. La Torah, la loi, est aussi un rappel à penser librement, pour autant que cela soit fait, de manière structurée, intention, raison, action. Philon ne propose pas simplement de combiner religion et philosophie comme deux alternatives, et je dirais non plus que pour Philon, la philosophie reste la servante du texte sacré, « the servant of scripture », dans les mots de Wolfson. Pour Philon, la Torah offre plutôt une manière de penser philosophiquement sur la vie. Nous verrons ultérieurement que déjà au IIIe siècle, des auteurs païens et des prédécesseurs juifs de Philon du IIe siècle, avant Jésus-Christ, parlaient de la loi juive d'une manière tout à fait similaire. Moïse cosmopolite. Le Moïse philonien n'est pas seulement philosophe. Il est aussi cosmopolite, littéralement donc citoyen du monde. En anglais et en français, on trouve le terme cosmopolite à partir du XVIe siècle, en allemand sous le nom de cosmopolite, à partir du XVIIe siècle et surtout à partir du XVIIIe siècle. Mais le terme cosmopolite remonte à l'Antiquité grecque. Les dictionnaires renvoient tous au philosophe Diogène de Sinope, le fameux philosophe du tonneau qui aurait dit à Alexandre le Grand de s'enlever de son soleil. En effet, lorsqu'on demanda un jour à Diogène d'où il venait, il aurait répondu qu'il était un citoyen du monde, cosmopolites. Cependant, l'œuvre de Diogène, qui vécut entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, n'a pas été conservée. On n'en connaît que des légendes datant de bien plus tard, surtout de son homonyme, Diogène Laërce, qui écrivit 5 siècles environ après Diogène de Sinope. C'est selon ce passage tardif que le philosophe aurait répondu être un cosmopolite. Il n'est pas exclu que cette citation tardive soit correcte. Cependant, la référence la plus ancienne du terme cosmopolite se trouve ailleurs. C'est dans la littérature juive hellénistique que le terme cosmopolite apparaît pour la première fois chez Philon d'Alexandrie. Le terme y fait son apparition 9 fois au total. Les premiers cosmopolites de la littérature mondiale se nomment Adam et Moïse. Pour Adam, c'était facile, il était seul. Dans sa biographie de Moïse, Philon écrit « Il, Moïse, est le seul de tous ceux qui aient jamais gouverné, qui n'est amassé ni or ni argent, qui n'est pas levé d'impôts et qui n'a pas possédé ni maison, ni domaine, ni troupeau, ni personnel domestique, ni revenu, ni rien de ce qui fait la magnificence et le luxe superflu. Et pourtant, il pouvait tout avoir en abondance. Quant à l'homme vertueux, il n'a sans doute rien en sa possession, au sens propre du mot, pas même sa propre personne, mais il reçoit une part, autant qu'il en est capable, des trésors de Dieu. Rien de plus naturel, il est le citoyen du monde, cosmopolites, et pour cette raison, il n'est inscrit sur le registre d'aucune cité de notre terre. Cela doit être puisqu'il a reçu en héritage, non pas une fraction de pays, mais le monde tout entier. Dans un autre traité, le De Confusione Linguarum, Philon décrit Moïse comme quelqu'un qui s'est établi dans le monde entier, comme dans sa ville et sa patrie, parce qu'il est devenu citoyen du monde. Moïse est exemplaire de l'homme vertueux qui ne met pas en avant la matérialité locale, mais qui se considère comme faisant partie du monde global. Le Moïse de Philon n'a pas de passeport. Il vit dans un monde où Schengen englobe l'ensemble de l'oïkoumène. Le passage cité dans la vie de Moïse, traité, rédigé, je suppose, au début des années 40 après Jésus-Christ, donc au milieu du 1er siècle, se trouve au commencement du récit philonien sur l'Exode, précisément là où Moïse devait partir hors d'Égypte, vers Canaan. C'est à cet endroit précis que Philon insère l'image de Moïse qui ne veut pas de bien, pas d'impôts, pas de terre. Dans le récit biblique, l'ordre divin n'avait pourtant été suffisamment clair. Dans la scène du buisson ardent, dans le chapitre 3 du livre Exode, Moïse est informé par Dieu de l'endroit où il doit conduire les Israélites. de la terre qui leur appartiendra. Le Seigneur dit à Moïse, vous voyez la traduction de la Bible d'Alexandrie, « J'ai bien vu le mauvais traitement subi par mon peuple en Égypte et j'ai entendu leur clameur à cause des surveillants de travaux. Je connais en effet leur souffrance et je suis descendu pour les enlever de la main des Égyptiens et les faire sortir de ce pays-là et les mener dans un pays beau et vaste, un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu des Cananéens, des Hérquétiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Gergésiens, des Évéens et des Jébousiens. » C'est le billet que Moïse reçoit de Dieu dans la scène du buisson ardent, dans la Bible. Peu après, afin de préciser la destination du voyage, Dieu répète encore une fois la destination, utilisant les mêmes mots. Que fait donc Philon de cet énorme passage épiphanique? Il lit la scène de l'inaltérable buisson ardent de manière allégorique, comme un symbole de la résistance du peuple juif. Philon comprend le buisson biblique avec ses épines comme un symbole pour le peuple juif. Le buisson était une plante toute rabougrie, mais non pas piquant, de sorte qu'on s'y serait blessé rien qu'en y touchant. Que le buisson s'enflamme, mais ne se consume pas, est lu par Philon comme un signe de la constance du judaïsme et de la force des juifs dans les moments difficiles. Il me semble que Philon a écrit cette interprétation allégorique dans le contexte des événements de l'an 38, lorsque de violentes émeutes anti-juifs ont éclaté à Alexandrie, et d'où la datation présumée du traité à cette époque. Si l'on compare le récit biblique à la version philonienne, il manque un point important du discours de Dieu à Moïse. Où faut-il aller? Aucune destination n'est mentionnée chez Philon. Certes, chez Philon aussi, Dieu dit à Moïse qu'il serait le chef d'une émigration, une apoikia, une fondation de colonies hors d'Égypte. Mais chez le philosophe alexandrin, Dieu oublie de dire où Moïse doit conduire les Juifs. Dans sa vie de Moïse, Philon ne mentionne que très tard la destination de l'Exode et de manière anecdotique. Il ne s'y intéresse pas vraiment. Et ce Moïse non plus. Le Moïse de Philon ne lutte pas non plus contre l'interdiction divine à son encontre de voir le pays promis, alors que dans le Midrash, Moïse presse Dieu de lui laisser la vie sauve, si ce n'est pas lui, alors qui d'autre? Le Moïse philonien, lui, est emporté par Dieu dans le ciel, dans le cosmos. Le Moïse biblique a une tombe dont personne ne connaît l'emplacement. Le Moïse cosmopolite de Philon n'a pas de tombe locale. Sa tombe est le cosmos. Il reste cosmopolite jusque dans sa mort. Il est tout à fait possible que Philon ait inventé le terme cosmopolite. C'est un mot qui a l'air, pour citer David Rounien, de verbum philonicum. Mais le concept, fortement influencé par l'hellénisme, existait déjà. Le concept du cosmopolitisme. Dans l'hellénisme, à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand, le regard s'est ouvert sur le monde et la structure classique de la polis a perdu de son importance. Le cosmopolitisme n'est pas seulement un concept de la diaspora juive, dont nous parlerons plus en détail lors de ma quatrième conférence, il est plus généralement, pourrait-on dire, un concept de la diaspora de l'hellénisme. Le concept d'une pensée cosmopolite se retrouve surtout chez les philosophes cyniques et stoïciens. Pour Chrysippe, au IIIe siècle avant, l'univers est une seule grande cité régie par le droit naturel. À l'époque romaine, on trouve des idées similaires chez le stoïcien Sénèque. Et enfin, selon Cicéron, Socrate se définissait comme habitant et citoyen du monde, mundi incola. Nous rencontrons bien ici l'équivalent latin du cosmopolite grec. D'ailleurs, il se pourrait qu'existe une représentation antique de la scène biblique du buisson d'épines. Il y a 10 ans, Hélène Cuvigny a publié une interprétation surprenante, et à mon avis convaincante, d'un ostracon à peine connu auparavant. Ce tessin avait déjà été trouvé en 2002 en Égypte et a pu être daté d'environ 100 après Jésus-Christ grâce aux circonstances de la découverte. Hélène Cuvigny a émis l'hypothèse que l'homme barbu qui, à première vue, semble nous saluer de la main gauche lors de sa promenade matinale pourrait être Moïse. Le bâton que Moïse tient dans sa main droite ne semble être que partiellement un bâton. Il s'agirait plutôt d'un bâton qui devient ou serait devenu un serpent. Selon Cuvini, il s'agit d'une illustration du miracle du serpent que Dieu montra à Moïse lors de son épiphanie au buisson. Sur le dessin, l'homme semble reculer devant le bâton qui se transforme en serpent. Ce serait donc le moment d'Exode 4:3, Kai efigen Moses ab autou en grec, vayanos Moshe mipanav en hébreu, et Moïse s'enfuit devant elle, qui serait montré ici. Il faut sans doute laisser ouverte la question de savoir si ce personnage à la barbe proéminente, qui rappelle un peu Theodor Herzl, peut vraiment être Moïse. Quoi qu'on en pense, il demeure possible qu'il s'agisse effectivement de cette scène biblique du buisson qui devient chez Philon d'Alexandrie le début d'un voyage cosmopolite. Le concept hellénistique du cosmopolite est lié à l'idée d'une loi de la nature, nomos physios, qui règle la vie pour tout le monde. Or, c'est un concept qui se heurte régulièrement à ses limites, et il en va de même pour Philon. Revenons brièvement au passage dans la vie de Moïse, où Philon parle de la loi du repos sabbatique. Philon nous raconte que Moïse estima que les citoyens qui suivaient les lois de la nature devaient célébrer le sabbat et s'abstenir des travaux. Il parle ici évidemment des Juifs. En gardant les lois du sabbat, ils suivraient ainsi la loi de la nature, une loi pour tout le monde. Comment comprendre cette mise sur un pied d'égalité de la loi juive et de la loi de la nature? Philon remarque, en passant dans Quod omnis probus, que les lois de la nature sont plus fortes que celles d'ici-bas. Mais de quelle loi de la nature parle-t-il? Qui décide en quoi consiste la loi naturelle? Voilà un problème fondamental du concept stoïcien de la loi de la nature et peut-être de l'universalisme en général. Pour Philon, le paradigme proposé, la mise en œuvre exemplaire de la loi de la nature, c'est bel et bien la loi de la Torah. Car pour Philon, il n'y a pas de doute que Moïse est le meilleur législateur. La Torah n'est pas une variante de la loi de la nature, mais son reflet. Il n'y a pas de distinction entre la loi de nature et la loi de Moïse. Avec cette revendication, la loi de la nature, c'est la nôtre. Philon ne fait pas exception. Même l'appel universaliste de Paul, dans l'épître aux Galates, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, se termine par une perspective tout à fait particulariste, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Il paraîtrait y avoir une contradiction inévitable entre l'idée d'un cosmopolitisme absolu et la conviction qu'une législation ou philosophie particulière soit la seule à être juste, la seule reflétant la loi de nature. Philon met en scène la conception cosmopolite qu'il a de lui-même à travers le personnage de Moïse. Mais cette image est également fluctuante et contradictoire. Encore une fois, comme tout cosmopolitisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles le judaïsme et la philosophie sont si difficiles à saisir chez Philon. La philosophie de Philon est cosmopolite, hellénistique, mais aussi juive. L'une des étapes importantes de la recherche sur Philon d'Alexandrie est certainement le commentaire de l'écriture chez Philon de Valentin Nikiprovetsky. C'est un livre extrêmement riche avec des conclusions importantes et convaincantes. Pourtant, je ne partage pas toutes ces opinions. D'après Nikiprovetsky, la philosophie de Philon passe toujours par l'écriture, au moins dans la majorité des traités, il dit. Philon n'expose jamais, je le cite, ses doctrines pour elle-même, mais pour expliquer un passage de l'écriture. Et Nikiprovetsky continue en mentionnant que, vous voyez le passage, Platon s'efforce de s'élever à la vision de l'être par un libre effort dialectique. Chez Philon, il s'agit de l'exégèse inspirée, mais toujours assortie de préoccupations apologétiques, de passages scripturaires. La pensée philosophique passe obligatoirement par l'intermédiaire de la philologie. C'est d'ailleurs la raison ou une raison pour laquelle, selon Nikiprovetsky, on trouve tant de contradictions dans l'œuvre de Philon. Je cite encore Nikiprovetsky. Les contradictions souvent s'estompent ou s'expliquent par la contrainte exégétique et, comme il a été dit, par le caractère inépuisable du texte biblique. Niki Porwetzki écrit que Philon n'était pas libre dans sa pensée, contrairement à Platon avec son libre effort dialectique. La pensée de Philon dépend selon lui du texte biblique avec son contenu divers et contradictoire. Or, cela me semble quand même être un peu simpliste. Mis à part le fait qu'on a parfois tendance à surestimer l'aspect apologétique de la littérature juive hellénistique, et ne l'est très souvent pas du tout, il faut se demander si la distinction nette entre l'écriture d'un côté et de la philosophie de l'autre côté est vraiment raisonnable. Est-ce que l'œuvre de Philon est simplement le résultat d'une combinaison de la philosophie, d'une philosophie essentiellement grecque, et de la loi ou de la religion juive? Une telle opinion n'impliquerait-elle pas justement ce que nous avons critiqué au début cet après-midi, à savoir la distinction nette entre l'hellénisme et le judaïsme, ici représenté par la philosophie et la loi? Valentin Niki-Provetsky a bien sûr raison lorsqu'il dit que l'écriture est le principal point de référence de la philosophie de Philon. Mais cela ne signifie pas nécessairement que la philosophie de Philon dépend de l'écriture. Philon est plutôt un philosophe qui pense avec la Torah. Dans un article qui vient de paraître, ma collègue de Tel Aviv, Sharon Weisser, critique à juste titre, il me semble, vous voyez la référence, elle critique la dichotomie entre judaïsme et philosophie dans les recherches philoniennes. Elle remet en outre en question la tendance de la recherche à considérer Philon en premier lieu comme un juif et en second lieu seulement comme un philosophe. Quatrième et dernier chapitre, les juifs comme philosophes, opinion païenne. Élargissons le spectre de nos réflexions et regardons brièvement ce que les philosophes païens, mais aussi les auteurs judéo-hellénistiques avant Philon, pensaient de la philosophie juive. L'histoire de l'ethnographie grecque sur le judaïsme commence avec une observation tout à fait surprenante. Les juifs, découverts tardivement au IIIe siècle par les Grecs à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand, sont un peuple de philosophes. Le premier auteur grec à le dire est Théophraste. Le philosophe péripatétien du IVe et IIIe siècle, cité par Porphyre dans son De Abstinentia, relate « Ils, les Juifs, jeûnent durant les jours d'intervalle entre les sacrifices et pendant tout ce temps-là, comme il s'agit d'une race de philosophes, hâte philosophoi to genos antes, ils s'entretiennent des choses divines. Et la nuit, ils se consacrent à la contemplation des astres en les observant et en s'adressant à Dieu par leurs prières. » Dans ce passage, Théophraste met en opposition l'approche grecque du sacrifice, qui serait uniquement motivée par la jouissance, les animaux sont mangés, et le sacrifice dans la pensée juive. Au cœur du rituel juif, en dehors du sacrifice, se trouvaient des discussions théologiques et philosophiques. S'agit-il d'une interpretatio greca, une interprétation grecque du sacrifice des Juifs? Peut-être, mais pas seulement. On retrouvera le langage philosophique de Théophraste plus tard chez Philon, justement. L'homme devient philosophe en regardant le ciel et le rite du sacrifice invite à des discussions philosophiques, comme on l'a vu dans la discussion de Philon sur Deutéronome 32, « Toute œuvre est dans ta bouche, dans ton cœur et dans tes mains ». Le passage de Théophraste n'est pas sans valeur pour l'histoire de la philosophie juive de l'Antiquité. Elle n'est pas isolée non plus. Cléarque, un autre disciple d'Aristote et contemporain de Théophraste, parle lui aussi de juifs comme de philosophes. C'est Flavius Joseph qui le cite. Cet homme, donc, était de race juive et originaire de Coele-Syrie. Cette race descend des philosophes indiens. On appelle, dit-on, les philosophes Kalanoï dans l'Inde et juifs en Syrie, du nom de leur résidence, car le lieu qu'ils habitent se nomme la Judée. Le nom de leur ville est tout à fait bizarre, il s'appelle Jérusalem. Il ressort clairement de cette formulation que pour les Grecs, les lieux de Judée et de Jérusalem commencent seulement alors à être connus. D'après le rapport de Cléarque, c'est d'ailleurs Aristote qui serait en train de décrire la rencontre avec un homme juif. Peu importe les détails, notons seulement que comme chez Théophraste, ici aussi les Juifs de la Syrie, sont mis en relation avec la philosophie. À Théophraste et Cléar, qu'il faudrait encore ajouter l'historien Mégastène, qui a environ 300 avant Jésus-Christ, écrit une histoire sur l'Inde et qui lui aussi parle de philosophes qu'on appellerait juifs. Tous ces passages hellénistiques parlant de juifs en tant que philosophes le font d'un point de vue grec et sont tous difficiles à contextualiser à cause de nos connaissances très fragmentaires de ces auteurs. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas attendre très longtemps pour voir apparaître les premiers textes juifs traitant de questions philosophiques. C'est dans la lettre d'Aristée du IIe siècle avant que nous trouvons une discussion de ce qu'est la philosophie. La lettre d'Aristée, exemple de pseudépigraphie juive, est un document fondamental de l'hellénisme juif. La lettre fournit le mythe fondateur de l'origine de la traduction grecque de la Bible hébraïque. Le sujet de la philosophie est présent dès le début de la lettre. Dans son rapport au roi Ptolémée de la bibliothécaire Démétrios, un bibliothécaire comme on peut en rêver, écrit, outre quelques autres, les livres de la loi des Juifs nous manquent, car ils se lisent en caractères et prononciation hébraïque, ont été écrits avec assez de négligence et d'inexactitude au dire des hommes compétents. Il leur a manqué une sollicitude royale. Or, il faut que ces livres aussi, tu les aies dans un texte correct, car cette loi est pleine de sagesse, philosophoteran, et très pure, puisqu'elle est divine. Le bibliothécaire décrit la loi juive comme philosophotera, comme très philosophique. André Pelletier traduit un peu librement par pleine de sagesse. Pour l'auteur juif de la lettre d'Aristée, la Torah est évidemment un texte philosophique. Cela transparaît tout au long du texte. Les lois alimentaires publiques, par exemple, reçoivent ici une explication philosophique. Tout ce qui regarde l'usage à nous permis de ces objets et du bétail, c'est par symbolisme qu'il, le législateur, donc Moïse, nous l'a fixé. Ainsi, avoir le pied fourchu et garder les cornes du sabot représente la pratique de réserver chacune de nos actions pour le bien. Les pieds fourchus, élément fondamental de la cacheroute, symbolise la nécessité de distinguer, en grec, diastelein, ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Avec cette discussion philosophique dans la lettre d'Aristée, nous ne sommes pas loin des observations sur les philosophes juifs de Théophraste ou de l'anthropologie philosophique de Philon. Quand le roi Ptolémée demande à un des traducteurs juifs venus de Jérusalem en quoi consiste la philosophie, celui, donc un des traducteurs juifs, répond « Donc, en quoi consiste la philosophie ?»« Ti esti philosophia » à raisonner « Ti alokitsestai » correctement sur chacun des événements qui arrivent, déclara-t-il, et au lieu de se laisser emporter par ses impulsions, à considérer les dommages qui résultent des passions et accomplir comme il faut le devoir du moment en restant dans la mesure. Pour obtenir ce talent, il faut prier Dieu. On pourrait dire que ce que nous retrouvons ici, c'est l'adaptation judéo-hellénique de la philosophie grecque. Et ce ne serait pas faux de le dire. Mais encore une fois, il serait simpliste de comprendre la philosophie juive de l'Antiquité uniquement comme une adaptation de la philosophie grecque à la loi juive. Dès le début de la littérature juive hellénistique, on retrouve des discours philosophiques authentiques, plutôt qu'apologétiques, un discours juif intégré dans la pensée grecque. C'est avec Philon d'Alexandrie que l'histoire de la philosophie juive atteint un premier point culminant. Fort de ce constat, au terme de notre première conférence, je partage l'avis de Harry Wilson, avec qui nous avons commencé notre parcours aujourd'hui. Philon est un philosophe à part entière, a philosopher in the grand manner. La semaine prochaine, nous verrons de quelle façon Philon s'attaque aux défis mythologiques, comment il réagit aux mythes grecs, et même plus difficile, aux mythes juifs. Et nous rencontrerons un Philon plein de contradictions. Nous verrons que ses réponses s'inscrivent dans une tradition de la philosophie grecque du mythe, mais pas seulement. Grecs, juifs et romains partagent une approche similaire, cosmopolite, on pourrait dire, au mythe et à la mythologie. Je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.